parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait
On y va, chérie, me dit ma copine. On y va. C'est parti. Ça va commencer. Radio Pleine Lune, ça va commencer. Radio Pleine Lune à 93.8 MHz de la radio dans vos oreilles, puisque le soleil brille encore dans le ciel malgré le vent et la froidure. Radio Pleine Lune à 93.8 MHz avec un numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023, depuis Genève, 033 depuis Bâle. En direct avec vous jusqu'à 20h. Avec au programme dans quelques instants les nouvelles, suivies des rendez-vous concoctés par Marie-Ange et Marjolaine. Et puis à 20h, une musicienne qui nous vient de très très loin dans le temps, Hildegard von Bingen, qui était la baisse principale d'un couvent allemand au XIIe siècle et qui a écrit des magnifiques cantates, une des grandes compositrices féminines. Et puis à 21h, une autre femme de musique, Francesca Soléville, que nous avons rencontrée à l'occasion de son passage à Genève. Elle est venue en effet le samedi 13 pour ouvrir la quinzaine des femmes à la Jonction. Dans quelques instants, nos nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. En Union soviétique, depuis le 1er avril, augmentation massive des prix. À partir de là, on peut vraiment dire que s'installe en Union soviétique une société à deux vitesses, une économie à deux vitesses, deux économies même. Nous avons rencontré Xenia, journaliste soviétique qui était de passage à Genève pour faire une émission de télévision sur toutes les personnes et les organisations qui ont aidé, qui ont assisté financièrement les enfants de Tchernobyl. Xenia.
Xenia, qui vient de Leningrad, est ici, et nous voulions lui poser des questions sur la vie quotidienne à Leningrad. Tu disais hier que Leningrad, c'était comme une ville assiégée. Pourquoi ?
Bon, Leningrad, c'est une comparaison assez intéressant, parce que maintenant c'est la vie politique qui est vraiment très très intéressant, mais en même temps il n'y a rien à manger dans les magasins, et voilà, c'est comme une petite guerre. Et En plus, on parle beaucoup de l'augmentation du prix. Maintenant, ça fait maintenant. Et malheureusement, presque deux tiers de la population, pas seulement de Leningrad, mais de l'Union soviétique, se trouve peut-être derrière le seuil de pauvreté. Et en plus, il y a encore un phénomène, pas seulement de Leningrad, mais de l'Union soviétique, qu'il n'y a rien à manger dans le magasin, mais les frigos sont toujours pleins. Et les gens, ils passent vraiment toute la journée en recherche de la bouffe partout. Et en plus, la différence de prix est énorme. Les prix au marché peut varier jusqu'à 30-36 roubles le kilo de viande par rapport, par exemple, le prix au début, avant l'augmentation du prix, c'était 2 roubles un kilo de bœuf, 1 rouble 50 un kilo de porc. Et maintenant, le kilo de porc, ça peut coûter, pendant samedi, dimanche, jusqu'à 30 roubles.
Parce qu'il y a des magasins officiels, des magasins d'État, et puis il y a le marché.
Oui, en plus, il y a le troisième système de magasins, c'est-à-dire le magasin coopératif. Et par exemple, les gens qui peuvent aller à l'Ukraine et acheter directement dans le kolkhoz, dans les sofroses, le produit, les fruits, ils peuvent après le vendre dans les rues de Leningrad au prix qui sont normalement beaucoup plus grands que le prix de l'État, mais moins grands que le prix de marché. Et voilà, c'est-à-dire on peut choisir entre trois systèmes.
Alors 36 roubles, ça veut dire quoi par rapport, quel est le salaire minimum?
Bon, si à l'époque on aurait pu dire que par exemple le salaire minimum c'était 90 roubles, il y a 3 ou 4 ans, et on disait que le salaire moyen c'est 200 roubles, 250, maintenant on ne peut pas dire parce qu'il y a les gens qui gagnent 200 roubles par jour, et on peut pas, maintenant l'éventail du prix de salaire est tellement immense qu'on ne peut pas dire que les prix moyens et le salaire moyen, mais le salaire minimum, il reste 90 roubles, sont les chiffres officiels.
Alors quand tu dis que trois quarts de la population vit au-dessous du seuil de la pauvreté, ça veut dire que la grande, grande majorité des gens gagnent autour de 100 roubles par mois.
Oui, gagnent 200 roubles, 300 roubles par mois. Voilà ce que je vois parmi les gens que je connaisse. Et surtout, sont les intellectuels, les médecins qui ne sont pas bien payés. Parce que, par exemple, ma mère, le prof d'anglais, il travaille à l'école supérieure pendant 20 ans. Il gagne maintenant 290 roubles. Et ce n'est pas beaucoup, surtout avec les prix qu'on a installés maintenant.
Donc, en tout cas, une chose est sûre, il y a un problème d'approvisionnement, mais il n'y a pas un manque de nourriture. Simplement, les gens la cachent.
Pas seulement les gens la cachent, mais c'est toujours stocké dans le magasin. Et chez nous, à Leningrad, il y a une émission de télé très, très connue, même chez vous à l'Occident, 600 secondes, ce sont une petite émission qui est vraiment pleine des reportages sur l'alimentation cachée et l'alimentation pourrie dans les stocks. Parce que les gens préfèrent, pas seulement les gens, mais les directeurs de magasins, ils préfèrent de pourrir la nourriture ou de le vendre. Parce que ça prend beaucoup de temps, ou de le vendre avec tout entier de coopérative.
Par exemple, le pain, quel est le prix du pain maintenant? Soit les trois prix, alors magasin, rue et marché.
Voilà, pour le pain, on disait toujours chez nous, l'Union soviétique, le prix de pain noir resteront toujours le même. Et le prix d'un kilo de pain, c'était à l'époque, avant le 1er avril, avant l'augmentation des prix, c'était 20 copecs. Maintenant, c'est entre 60 et 70 copecs. Mais c'est beaucoup quand même. Mais au marché, on ne peut pas trouver le pain au marché. Seulement, il y en a deux possibilités. Mais on peut trouver, par exemple, les coopératives arméniennes et géorgiennes, ils préparent souvent leur propre pain qui s'appelle la vache. Mais c'est toujours les prix coopératifs entre 20 et 30 copecs.
Donc, est-ce qu'on peut dire que s'installe en Russie ou en Union soviétique une société à deux vitesses?
Oui, c'est-à-dire, on peut le dire, même on peut dire qu'il y a deux économies, l'économie d'État et l'économie parallèle, l'économie des marchés qui a ses propres banques, ses propres usines. Il y a les gens qui travaillent là-bas et qui achètent les matières premières chez des gens sur place au prix qui sont beaucoup plus grands que les prix que peut proposer l'État. Et c'est vraiment deux sociétés qui ne se touchent jamais.
Et quelles sont, par exemple, les différences de salaire, si on peut parler, entre la société d'État et cette société marginale?
Voilà, je peux dire seulement, par exemple, que chez nous, le niveau social d'une personne, on peut le voir surtout sur sa voiture. Et, par exemple, le prix de voiture de l'ADA de modèle numéro 9, ça peut varier jusqu'à 100 000 roubles. Voilà, et on ne peut pas le trouver facilement. Un prix de Mercedes, ça peut varier jusqu'à 500 000 roubles. Il y a les gens qui l'achètent. Voilà, ça peut donner une idée de son salaire, de leur salaire.
Aux États-Unis, la demande d'adoption est en progression constante, ce qui induit et provoque de nombreux trafics, en particulier au Honduras. Au Honduras, ou comme ailleurs en Amérique latine, on vend les bébés parce que la misère a depuis longtemps atteint un seuil inimaginable. Près de 8000 enfants sont adoptés chaque année des États-Unis, provenant de 24 pays, mais nombreux sont ceux qui viennent d'Amérique centrale et beaucoup du Honduras. Honduras, un des pays les plus pauvres du monde, où 10% ou presque des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. La majorité de la population de ce petit pays d'Amérique centrale, qui compte un peu plus de 4 millions d'habitants, vit en dehors des zones urbaines, souvent sans accès à l'eau potable. Plus de la moitié des familles ont à leur tête une femme qui doit faire travailler ses enfants dès qu'ils peuvent porter une charge ou compter. La misère, sans parler des milliers d'enfants qui vivent dans les rues, mendiant ou se prostituant. Profitant, si on peut dire, de cette misère, de nombreux citoyens américains vont au Honduras pour adopter des enfants. Ils passent par des agences qui pratiquent à la carte les prix des bébés entre 1 000 et 10 000 dollars. De cet argent, très peu arrivera dans la poche de la mère. La grande majorité de cet argent sera empochée par un avocat plus ou moins véreux. Ces 1 000 à 10 000 dollars, ça représente des années de travail d'un ouvrier et cet argent qui va directement dans la poche des intermédiaires. C'est un commerce florissant sur le dos de la détresse. En Allemagne, enquête sur le harcèlement sexuel. Plus de 70% des Allemandes ont été harcelées sexuellement sur leur lieu de travail, selon la première étude du genre publiée à Bonn et réalisée par le ministère des Femmes. 56% des femmes se plaignent de remarques désobligeantes, 34% de pincements ou de tapes sur les fesses, 22% d'incursions dans leur corsage. Par ailleurs, 7% ont subi des menaces professionnelles et 5% des contraintes sexuelles. À la suite de ce triste constat, le ministère des femmes envisagent de diffuser une plaquette informant les femmes de leurs droits, leur rappelant entre autres qu'elles peuvent porter plainte. La catastrophe de Tchernobyl continue de faire parler d'elle à l'approche du 5e anniversaire de cette catastrophe, le 26 avril 1986. L'ampleur du désastre ne fait qu'augmenter. La catastrophe de Tchernobyl a fait de 7 000 à 10 000 morts, alors que les autorités soviétiques n'en ont reconnu que 31, affirme le scientifique responsable de la zone interdite créée autour de la centrale nucléaire, Vladimir Tchernounko. Tchernounko, cité par un journal britannique, dit que en fait les autorités soviétiques n'ont pris en compte que les morts provoquées directement par l'explosion et non pas tous les morts qui ont été toutes les personnes qui sont mortes suite à l'irradiation parmi par exemple les militaires et les mineurs qui ont participé aux opérations de nettoyage. Selon toujours Tchernounko, il accuse le gouvernement soviétique d'avoir mal informé la Commission internationale de l'énergie atomique sur la quantité de combustible radioactif libéré par le réacteur. Alors que la commission de Vienne a été informée officiellement que 3% seulement des 190 tonnes de combustible radioactif avaient été libérées, Tchernoussenko estime que le chiffre réel se situe entre 60 et 80%. Il avance par ailleurs le chiffre de 3,5 millions de personnes qui auraient été exposées à des niveaux de radiation plusieurs centaines de fois supérieurs aux limites admises. En Bulgarie, deux ex-dignitaires communistes sont jugés pour avoir minimisé la gravité de la contamination radioactive après la catastrophe de Tchernobyl. Le procès de Tchernobyl, comme on l'appelle, où sont jugés deux ex-dignitaires communistes pour avoir caché la gravité des conséquences de la catastrophe nucléaire en Bulgarie, s'est ouvert en début de semaine dans une atmosphère survoltée à Sofia. Rassemblée autour du palais de justice lundi, la foule a failli lyncher les deux principaux accusés de ce qu'on appelle ici le génocide radiologique. Grigor Stoïtchov et Lyubimir Chindarov sont accusés d'avoir intentionnellement minimisé l'étendue de la contamination radioactive provoquée par le nuage de Tchernobyl et de n'avoir pas pris les mesures minimales de protection civile. Les enfants bulgares figurent aujourd'hui à la première place dans le monde pour la concentration d'iode 131 dans les glandes thyroïdes. Tout de suite après la catastrophe de Tchernobyl, on constatait en Bulgarie des niveaux dépassant de 1000 fois les normes de radiation tolérées sans que le gouvernement n'ait pris quelques mesures. Pour un médecin bulgare, je le cite, « L'avenir n'est pas rose car dans les années suivantes, nous nous attendons à ce que les cas de malformation, les leucémies et les cancers augmentent de 10%. » Quand on sait qu'en France, au moment de la catastrophe de Tchernobyl, les autorités françaises ont soutenu mordicus que le nuage s'était arrêté aux frontières, on pense que d'autres procès de ce genre pourraient avoir lieu. Toujours dans notre rubrique de pollution, qui est malheureusement assez grave, aujourd'hui, le Koweït est sous un soleil noir. C'est inimaginable, c'est effroyable. Les mots manquent même aux habitués des grandes pollutions pour décrire le désastre écologique qui frappe le Koweït. Des puits en feu par centaines, détruits selon les spécialistes par des véritables experts. Le pays entier est en permanence plongé dans une nuit artificielle, comme éclairé par un soleil noir. C'est comme si cet hiver nucléaire tant redouté, consécutif à une guerre atomique avait frappé le pays. De plus, apparaissent les premiers symptômes de troubles chez les habitants du Koweït. Asthme, maux de gorge, migraines, allergies. Des affections que le système de santé koweïtien n'est pas en mesure aujourd'hui de traiter. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 4 millions de dollars sont nécessaires pour soutenir un programme de santé d'urgence dans l'émirat. En Suisse et à Genève, l'association des jeunes sapeurs volontaires accueille pour la première fois 3 jeunes filles. C'est une première suisse. Isabelle, Christelle et Zahraïda sont donc à Genève, font partie de la nouvelle volée des jeunes pompiers volontaires. Est-ce que nous pouvons dire des jeunes pompières volontaires? Ces adolescentes seront donc les premières à commencer cette formation. Depuis que le Parlement genevois a décidé l'an dernier de voter une loi autorisant les femmes à faire partie des équipes volontaires du service d'incendie, 5 femmes ont achevé en mars leur formation au centre de la protection civile à Genève et ont commencé à travailler. Toujours en Suisse, l'association suisse pour le droit à l'avortement et à la contraception fait le point sur la question, sur la situation de l'avortement dans notre pays, où on peut dire que malgré une loi restrictive, la liberté d'avorter devient de plus en plus réelle. Il y a quelques semaines, le débat qui s'est déroulé au Conseil national sur les manipulations génétiques et la fécondation in vitro a remis au premier plan le thématique du droit des femmes à disposer de leur corps. Ce type de discussion avait disparu de la scène politique politique depuis le rejet par les chambres en 1987 de la solution fédéraliste en matière d'avortement. L'Association suisse pour le droit à l'avortement et à la contraception, l'ASDAC, a lancé une grande enquête il y a 2 ans pour faire une photographie précise de la situation en Suisse sur l'avortement. Cette étude conclut à une tendance à la libéralisation dans les cantons jusqu'ici plus restrictives. Cependant, les femmes de l'ASDAC sont toujours très vigilantes car, disent-elles, cette enquête a également servi à répondre à un certain nombre d'attaques qui pourraient faire craindre un retour en arrière. Ces attaques ont été particulièrement virulentes en Italie, en France et en Angleterre, aux États-Unis, sans oublier la situation particulière de l'Allemagne où la question de l'avortement a fait presque capoter la réunification entre l'Est et l'Ouest. En Suisse, l'enquête menée dans chaque canton permet de dire que tout va plutôt dans le sens d'une libéralisation. Les cantons qui avaient, en 1977, dit oui à la solution des délais, c'est-à-dire le droit à l'avortement pendant les 3 premiers mois, ont toute une pratique très libérale. Il s'agit du canton de Genève, Vaud, Neuchâtel, Bâle-Ville, Berne et Zurich. Ces dernières années, d'autres cantons, tels que l'Argovie, Bâle-Campagne et le Tessin, ont également adopté une attitude plus libérale et Fribourg et Valais ont également revu leur procédure dans un sens d'une plus grande ouverture. Le nombre total des avortements a d'ailleurs régressé de façon très régulière en Suisse, passant de près de 18 000 en 1980 à 14 000 aujourd'hui. Faut-il en conclure que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Non, répond encore l'ASDAC, car les dispositions du code pénal actuellement en vigueur font toujours de la Suisse l'un des pays les plus restrictifs d'Europe et le danger d'un retour en arrière subsistera aussi longtemps que la loi n'aura pas changé. En effet, toutes les tentatives de décriminalisation de l'avortement ont toujours échoué actuellement et l'avortement est régi en Suisse par le code pénal qui date de 1942. Ce code stipule que la personne qui par son propre fait ou par celui d'un tiers se sera fait avorter sera punie de l'emprisonnement. D'autre part, l'ASDAC craint une procédure qui introduirait un contrôle social de plus en plus raffiné, à l'instar de la procédure fribourgeoise où toutes les demandes doivent passer par le planning familial. Rappelons aussi que l'année dernière, nous, on avait découvert à Berne un fichier des femmes avortées. Toutes les tentatives de modifier le statu quo légal ont échoué jusqu'ici, puisque toutes les initiatives ont été rejetées, que ce soit des initiatives demandant une libéralisation de l'avortement ou au contraire une restriction des possibilités d'avorter. Actuellement, les cantons les plus restrictifs sont le Valais, la Penzelle, Glaris, Lucerne, Schwyz, Unterwald, Uri ou Zug, où les avortements sont très rares, voire impossible car les critères d'évaluation de la demande sont très stricts. Les grossesses multiples sont un danger assez fort, que ce soit pour le futur enfant ou pour la mère, et il faut accroître la prévention. Si le nombre des jumeaux reste relativement stable, on assiste ces dernières années à une véritable épidémie de grossesses multiples. Ce boom s'explique en grande partie par les traitements contre la stérilité, même si 30% des grossesses triples sont spontanées. Il faut aussi y ajouter à cela le problème de la fécondation in vitro, puisque dans ces cas-là, la plupart du temps, on implante plusieurs embryons dans l'utérus et on assiste souvent à des grossesses multiples. Sur le plan médical, le risque principal, c'est la prématurité. Plus les enfants sont nombreux, plus ils risquent de naître prématurés. Les grossesses multiples posent aussi des problèmes psychologiques et matériels aux femmes, comme l'a montré une enquête chez des femmes qui ont mis au monde des triplés. Pour toutes les familles, la naissance de triplés entraîne un changement radical et définitif du mode de vie, a déclaré la psychologue qui a mené cette enquête. L'absence de plaisir et la souffrance psychologique sont fréquentes chez ces mères qui, au lieu de vivre la relation de maternage qu'elles souhaitaient, se trouvent transformées en pourvoyeuses de soins. Toujours en Suisse, la grève au féminin du 14 juin fait parler d'elle. Les patrons sont incrédules. La grève des femmes du 14 juin c'est d'ailleurs, se prépare dans de nombreuses entreprises et 45 comités locaux ont déjà été formés pour l'organiser. Du côté des employeurs, on réagit avec un sourire incrédule. Une grève des femmes, jamais chez nous. Si l'incroyable devait pourtant arriver, la plupart ont assuré qu'ils ne prendraient pas de mesures contre les grévistes. Marcel Négler, attaché de presse à la Migros, rit déjà au seul mot de grève des femmes. C'est un thème amusant, assure-t-il, et ils sont nombreux à réagir comme lui. D'après une enquête de l'ATS menée dans quelques entreprises, la menace de grève n'est pas prise au sérieux. Patrons et chefs du personnel répondent avec dédain, moquerie ou plus rarement avec irritation. Certains n'ont même pas encore entendu parler de la grève. Lancée par l'USS, l'action devrait sensibiliser aux injustices dont les femmes font encore les frais 10 ans après l'acceptation de l'article constitutionnel sur l'égalité. Nombre d'employeurs ont laissé entendre qu'ils doivent réfléchir à des questions autrement plus importantes. Les organisatrices préfèrent mener diverses actions plutôt que des véritables grèves. Stands, boycott des grandes surfaces, défilés doivent marquer le 14 juin d'une pierre blanche. Les services publics sont les seuls à s'être concrètement penchés sur la question de la grève. Les PTT et les entreprises des transports bâloises donneront par exemple congé le 14 juin aux femmes qui le souhaiteront, à condition que le service reste assuré. Toutes les employées des guichets ne pourront pas s'absenter en même temps, mais si quelques-unes d'entre elles devaient disparaître sans explication ce jour-là, les heures seraient simplement déduites de leur temps de salaire ou de leur temps de vacances ou de leur salaire. Le magazine économique Cash a estimé à 500 millions de francs la perte causée pour l'économie nationale par une grève générale des femmes. Si 10% d'entre elles seulement y participaient, la facture s'élèverait à 60 millions de francs pour la journée et à 7 millions pour l'heure de grève. Les organisatrices, quant à elles, sont certaines de respecter la loi. À leurs yeux, la présence d'un article sur l'égalité dans la Constitution leur donne le droit de faire la grève. De nombreuses femmes, pourtant, et celles qui sont les plus mal loties en premier lieu, ne peuvent pas se permettre de faire la grève. En parlant d'ailleurs de cette grève des femmes, il n'y a pas que les patrons qui essayent de conjurer la menace en traitant par le rire ou le mépris. Ainsi donc, dans le Matin de mardi, torchon dont mon bistrot matinal est bien pourvu, j'ai pu lire les éclats de rire de la journaliste Catherine Marais. Quelle rigolade ce sera pour les patrons et les hommes, pense-t-elle tout bas, car au bas mot, si 50 femmes dans toute la Suisse font la grève, quel succès. Je vous cite une phrase. « Madame songeuse compte le nombre de ses collègues qui ont fait comme elle la grève. 6 secrétaires, 15 caissières, 13 vendeuses, 2 fleuristes. Sans oublier quelques femmes de ménage, 40 ou 50 personnes, et peut-être encore Christine, Monique, Sylvie, Claudine et Mireille, qui devraient encore demander la permission à leur mari. Voilà qui va faire plaisir au patron, se dit madame, lui qui trouvait l'idée d'une grève des femmes tellement amusante. Ça lui fera au moins 50 motifs de rigoler. Je me suis souvent demandé ce qui poussait certaines femmes à tant mépriser leurs consoeurs. La psychanalyse nous dira qu'elles ont souffert de l'absence du père. Le bon sens pratique nous dit qu'elles savent de quel côté ébeurer leur tartine. Les Noirs américains appellent ça la mentalité oncle Tom. Moi, j'appelle Madame Catherine Marais une lèche-botte. Et comme je ne suis pas sexiste et que je suis persuadée qu'en matière de bêtises, l'égalité est gagnée entre hommes et femmes, pour ne pas faire de discrimination qui pourrait induire Madame Catherine Marais à vouloir le 14 juin faire grève, je lui concède un chapeau de cochon sexiste. Une nouvelle sportive, un président d'un club de football, le club des Girondins, a été traîné en justice par une journaliste pour entrave à l'activité économique en raison de son appartenance à une race ou un sexe. Il s'agit de Claude Benz qui estime seulement que chacun doit rester à sa place, surtout les femmes. Et au club des Girondins, sous le règne des moustaches, il n'y avait pas de place pour elles. à tel point qu'il refusait absolument de faire entrer les femmes journalistes dans, pour des interviews. Pour lui, pour Claude Benz, une journaliste femme n'est pas le vecteur le plus adapté. Un journaliste sportif doit nécessairement se lier d'amitié avec les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants. Aussi, le fait que ce soit une femme pose problème au club. Il ne s'agit pas de mesures misogyniques, dit-il, mais de simple bon sens. Depuis plusieurs semaines, les gardes du corps de Claude Benz interdisaient donc d'interviewer l'entraîneur, les joueurs, etc. Un entraîneur a même expliqué qu'il lui est défendu de parler à une femme parce que c'est une femme. En coulisses, Claude Benz a déjà affirmé que la jeune femme provoquait beaucoup d'incidents par sa seule présence. Imaginez, dit-il, la réaction des femmes de joueurs lorsqu'elles voient leur mari discuter sous la douche avec une femme. Oh, quelle horreur! Le lendemain, la journaliste fatale revient en compagnie d'un huissier pour constater la discrimination sexuelle. Elle assure qu'elle n'a jamais vu le torse d'un joueur. L'avocat de Claude Benz a plaidé le droit à l'intimité des joueurs. La partie civile, elle, a invoqué l'article sur l'entrave à l'activité économique en raison de son appartenance à une race ou à un sexe. Le jugement n'est pas encore rendu.